16h50, Raphaël Jacob est là pour la chronique américaine. Raphaël, l'ex-directeur du FBI, James Comey, a été blâmé. On sait qu'il a été congédié par Donald Trump dans les premiers mois de son mandat, mais il ne sera pas traduit en justice.
Non, et en même temps, il y a quelque chose qui est un petit peu contradictoire, parce que d'un côté, le rapport du bureau de l'inspecteur général du département de la justice aujourd'hui est assez accablant pour M. Comey. Pourquoi? Parce que dès les premières pages, pour l'avoir lu, là, dès les premières pages, on explique c'était quoi le mandat de l'enquête. Le mandat, c'était de déterminer si M. Comey avait violé ou non les termes de son emploi, ainsi que les politiques et les règles du FBI.
OK. Qu'est-ce qu'on y reproche?
Et on conclut exactement ça, qui a fait ça, qui a violé à la fois les termes de son emploi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coulé de l'information de façon, justement, pas nécessairement criminelle, parce qu'on ne le traduira pas en justice, mais tout au moins de façon inappropriée. Parce que lorsque vous êtes un employé du département de la justice ou du FBI, eh bien, vous ne pouvez pas, surtout pas suite à votre départ de l'emploi, prendre des informations qui appartiennent légalement au FBI, au département de la justice, et les étaler sur la place publique. Or, c'est ce que M. Comey a fait. C'est pour ça qu'on le blâme. Mmh. Mais en même temps, le département de la justice a aussi annoncé qu'on n'allait pas le poursuivre en justice.
C'est qu'il y a une hypocrisie là-dedans dans toutes les administrations, pas seulement aux États-Unis. C'est-à-dire que quand ce sont des fuites qui sont calculées, autorisées en haut lieu, là, c'est correct.
Exact.
Dans le cas de Comey, il l'a fait de son propre chef. Je pense que c'était... il a coulé les mémos qui se faisaient après ses rencontres avec Trump.
C'est exactement ça. C'est que James Comey a pris des notes à 7 reprises différentes suite particulièrement là, à des rencontres en privé avec le président élu et le président Trump. Donc, avant son assermentation et après son assermentation, il les a coulés après coup aux médias.
Pour le contexte, James Comey prenait des notes après ses rencontres avec Donald Trump parce qu'il considérait que Trump était un menteur et il s'est dit... Moi, je vais prendre des notes immédiatement après mes meetings. Comme ça, je vais avoir une trace écrite de ce qui s'est passé.
Exactement. C'était ça l'intention. Parce qu'il se disait, ça ne pourra pas tenir comme ça pendant 4 ans. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, va péter. Mm-hmm. Et je suis mieux, en bon français, de me padder. Et donc, c'est pour ça qu'il a produit ces mémos-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il avait le droit de le faire selon les termes de son emploi. Mais la bonne nouvelle pour lui, encore une fois, c'est qu'il s'en sort largement indemne. Et le principal intéressé a réagi. M. Comey a réagi aujourd'hui en disant qu'il s'attendait à recevoir des excuses.
De?
Ça n'a pas été précisé. Toutes les personnes qui l'ont accusé, en fait, d'être un criminel.
Lui, est-ce qu'il a fait des excuses pour avoir réactivé la filière filière du serveur de Mme Clinton pendant la campagne?
C'est ça qui est absolument ahurissant avec James Comey, parce que je dirais que c'est un des rares types aux États-Unis qui est détesté autant par les républicains que les démocrates. Les démocrates le détestent pour avoir, selon eux, coulé Mme Clinton à la toute fin de la campagne. Et les républicains le détestent pour avoir en bonne partie, entraîné la mise sur pied de l'enquête du procureur spécial Bob Mueller qui a été, on le rappelle, créée après le congédiement de Comey.
Le président Trump est un grand fan de Fox News. Hein. Fox News, là, c'est la chaîne d'information de droite ultra influente. Cette chaîne-là façonne la réalité pour des millions d'Américains. Et là, le président Trump qui est critique face à son Fox.
Ben, écoute, il faut le dire, là, c'est assez surréel, mais dans le contexte de la présidence Trump, j'imagine que tout est rendu normal. Le président des États-Unis, Pat, a une habitude quotidienne de commencer ses journées, pas pendant 1 ou 2 minutes, mais dans certains cas pendant quelques heures, devant le téléviseur. Et pas entièrement, mais en bonne partie, c'est devant la chaîne Fox. Et c'est pourquoi on a compris à Washington que l'une des meilleures façons de communiquer avec lui, c'était d'intervenir à l'émission matinale du réseau Fox qui s'appelle Fox and Friends. Donc, c'est communiquer avec le président des États-Unis via un réseau d'informations câblées. Donc, tout ça pour te dire que le type en est un friand amateur, ou plutôt en était un jusqu'à hier. Parce que selon Donald Trump, il y a une animatrice de la station qui ne s'est pas montrée assez agressive lorsqu'elle a eu en entrevue la directrice des communications du Parti démocrate. Et donc, Donald Trump est sorti sur Twitter et là, je te le cite, a lamenté le fait que, selon lui, Fox ne travaille plus pour nous. Nous étant la Maison-Blanche, notre administration.
C'est une belle perception de dire qu'avant ça, un réseau qui devrait être indépendant, qui est un réseau privé, travaillait pour nous.
Exact.
C'est la perception qu'il y en avait. Ça donne un peu le niveau d'agressivité de Fox envers son administration.
Et sais-tu ce qui est absolument glorieux dans cette affaire-là? C'est que suite à ça, tu as eu des commentateurs conservateurs de Fox qui sont sortis publiquement pour partager le tweet du président et y réagir, notamment un qui a dit « Écoutez, ce n'est pas notre travail de travailler pour vous. Et là, on parle d'un commentateur qui était en bonne partie, je ne dirais pas à la solde, mais qui avait certainement un billet en faveur de Donald Trump. Donc, imagine pour le reste du paysage médiatique américain.
Bon, on va sortir un peu de la politique pure. Il y a une nouvelle base de données qui a été mise sur pied par le Washington Post qui donne une petite idée du poids démographique du français aux États-Unis.
C'est fascinant. En fait, je suis tombé là-dessus. Pour être plus précis, je devrais qualifier ça en disant je suis tombé là-dessus, ça fait une couple d'années que c'était sorti. Mais c'était mis à jour. Et sur les quelques 3000 comtés qu'il y a à grandeur des États-Unis, t'en as le quart où au moins 10% des foyers parlent une langue autre que l'anglais comme langue maternelle à la maison. Et là-dessus, il y en a 15. 15 comtés à la grandeur des États-Unis où la langue numéro un après l'anglais, c'est le français. Sur ces 15-là, il y en a 12 qui se situent dans le même état. C'est très facile à deviner et j'avertis les gens que je ne t'ai pas donné la réponse à l'avance. J'avais te demandé de deviner. Je te dis c'est facile, tu n'as pas besoin de pousser très, très fort.
J'allais dire la Louisiane, mais je vais y aller avec... Non, c'est la Louisiane?
Garde la Louisiane.
OK, parce que j'allais dire là, dans les états du Nord, là, comme le Maine, etc., il y a beaucoup de descendants de Canadiens français.
Bien, écoute, tu as déjà toutes les réponses parce que le numéro un, c'est la Louisiane. Après ça, c'est le Maine. Et finalement, tu as un petit comté au New Hampshire qui donne sur la frontière québécoise. Et c'est tout ce qui est fascinant. C'est, je dirais, malheureusement, très méconnu des Québécois. C'est l'héritage français aux États-Unis. Hey. C'est incroyable.
Quand je suis allé au Missouri, quand il y a eu les émeutes de Ferguson au Missouri, là, à Saint-Louis, 2014, moi, j'ai été frappé. C'était ma première fois dans ce coin-là. Et d'abord, Missouri, c'est un nom qui a été donné par les colons français. Mais après ça, tu as tout plein de noms qui sont francophones. Et tu te promènes un peu partout, là. Tu sais, Des Moines, Iowa. Les Américains vont dire Des Moines, mais c'est Des Moines. Je veux dire, l'aventure des colons français en Amérique, c'est fantastique, là.
Pierre. La ville de Pierre, dans le Dakota. Il y a une ville qui s'appelle Pierre. C'est pas une farce. Et je te parlais de la Louisiane. Écoute les noms des comtés en Louisiane. La Fourche, Plaquemine, Vermillon, Avoyel, Acadia et mon préféré, Terrebonne.
Ah oui?
Terrebonne, tu sais, c'est assez remarquable. Ouais. Et je te finis là-dessus. La petite ville de Lewiston dans le Maine, qui a également une population encore francophone assez importante, était un bastion de l'industrie du textile. Employait beaucoup, beaucoup de Canadiens français à l'époque. Et comment est-ce qu'on leur faisait référence? White niggers. À ce moment-là, c'était très souvent les Canadiens français dans le Nord qui étaient victimes de discrimination.
Écoute, écho de Pierre Vallière et les Nègres blancs d'Amérique, hein, un des fondateurs du mouvement souverainiste moderne. Puis Arkansas, pour ton information, je vais te le trouver plus en détail, là, mais ça vient aussi des colons français. Là. Les Arkansas, c'est devenu les Arkansas. On désignait une tribu amérindienne.
Tu me l'apprends.